France Musique. Le carnaval de Monsieur Saint-Saëns, François-Xavier Chemchak.
Bonjour à tous, voici votre nouveau rendez-vous de l'été, le carnaval de Monsieur Saint-Saëns, qui va s'ouvrir chaque samedi de juillet-août avec cette introduction du carnaval des animaux, la plus célèbre partition de ce compositeur né à Paris le 9 octobre 1835 et mort à Alger il y a un siècle, le 16 décembre 1921 à l'âge de 86 ans. Saint-Saëns est donc venu au monde l'année où Bellini présentait son dernier opéra. Et il meurt l'année où Schoenberg entame la composition de sa dodécaphonique suite pour piano. C'est dire si Saint-Saëns a traversé des bouleversements, des révolutions musicales, comme celle de Richard Wagner. Mais Saint-Saëns a voulu garder un langage classique. Oui, classique je suis, nourri de Mozart et de Haydn, dès ma plus tendre enfance. Je le voudrais qu'il me serait impossible de ne pas parler une langue claire et bien équilibrée. Saint-Saëns fut le compositeur français le plus joué de son temps. Le succès de sa musique est encore remarquable à travers le monde, mais son œuvre, souvent académique, parfois inégale, a suscité des critiques féroces sous les plumes de Claude Debussy, Olivier Messiaen ou Octave Mirbeau, malgré l'admiration que lui ont témoigné Berlioz, Ravel ou Reynaldo Hahn. Le carnaval de Monsieur Saint-Saëns en 8 épisodes va nous permettre de faire plus ample connaissance avec lui en évoquant aujourd'hui la virtuosité. Voici les pianistes de notre générique, Brigitte Engerer et Boris Berezovsky, dans un extrait du Carnaval des animaux. L'ensemble orchestral de Paris est avec eux. N'y a-t-il donc personne qui ait assez aimé Saint-Saëns pour lui dire qu'il avait assez fait de musique et qu'il ferait mieux de parfaire sa tardive vocation d'explorateur. Voilà ce que demandait perfidement Monsieur Croche de Claude Debussy, mais Saint-Saëns lui rendra bien. Comment peut-on composer si bien une aussi mauvaise musique ? Interrogeait sur le même ton Olivier Messiaen devant la troisième symphonie pour orgue du même Camille Saint-Saëns. Selon Alfred Cortot, pour le piano, Saint-Saëns se contente de répéter à toutes les époques de sa carrière des procédés et des formules immuables, comme s'il avait admis une fois pour toutes que le ton du bavardage diatonique était le seul qui lui convainc. Enfin, voici ce qu'écrit Octave Mirbeau, un auteur aussi incontestablement dépourvu de talent que les messieurs Saint-Saëns, après la création de l'opéra Le Timbre d'Argent. Mirbeau qui ajoute « un haineux, impuissant, un nain grotesque qui a voulu que sa médiocrité s'étala au grand jour ». Voilà des flèches empoisonnées qui en auraient tué plus d'un, mais Camille Saint-Saëns est resté de marbre devant ces torrents de haine, même posthumes, préférant songer à l'immense succès de sa musique, dont témoignent tous les programmes de concerts de la fin du 19e et du début du 20e siècle, préférant se souvenir de Berlioz, qui saluait un maître et un pianiste foudroyant, se souvenir de Gounod, qui voyait en l'opéra Ascanio de Saint-Saëns un chef-d'œuvre digne des plus grands maîtres. Saint-Saëns, après sa mort, sera salué par Ravel, dont le concerto en sol a été composé, je cite, « dans l'esprit de Mozart et de Saint-Saëns », et admiré par Reynaldo Hahn, qui fait découvrir la musique de Saint-Saëns à Marcel Proust, Saint-Saëns étant l'un des modèles du personnage de Vinteuil, dont la fameuse sonate pour violon et piano, dans La recherche du temps perdu, doit quelque chose à Saint-Saëns, malgré les sarcasmes de Proust à la fin de sa vie sur notre compositeur. Saint-Saëns a été 35 ans dans l'avant-garde et 35 ans dans l'arrière-garde, résume le musicologue Yves Gérard. Il n'empêche que ses œuvres provoquent toujours d'incontestables plaisirs. Le pianiste Jean-François Esser écrivant que la musique de Saint-Saëns ravive les parfums lointains d'une enfance heureuse. C'était le final du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns par les pianistes Jean-François Esser et Victoria Postnikova, entourés de 8 musiciens, dirigés par Gennady Rojdestvensky. Saint-Saëns et la virtuosité. Voilà donc le thème de cette première émission. Virtuose, Camille Saint-Saëns l'a été dès sa plus tendre enfance, virtuose du piano, formé par sa grand-tante, par Camille Marie Stamati, donnant son premier concert à 10 ans avec le 3e concerto de Beethoven et le 15e de Mozart, pour lequel il écrit même sa propre cadence. C'est un virtuose de l'écriture musicale, même si l'inspiration n'est pas toujours au rendez-vous. Saint-Saëns est un maître des techniques de composition, apprises dans les classes de Jacques Fromental à Lévis et de Charles Gounod. C'est aussi un virtuose de l'orgue, en disciple de François Benoît et on le connaît longtemps, organiste à Paris, à la tribune de Saint-Merry et surtout à la Madeleine. Nous y reviendrons dans un prochain épisode. Cette virtuosité, on la retrouve dans nombre de partitions instrumentales, avec évidemment le piano, son instrument roi, mais aussi le violoncelle ou le violon. Voici de 1858, Saint-Saëns a 23 ans, un concerto pour violon en Do majeur, dont le final est ici joué par Andrew Wan. L'Orchestre symphonique de Montréal, dirigé par Kent Nagano, accompagnait en 2014 leur premier violon solo, Andrew Wan, dans le final de ce concerto pour violon que Saint-Saëns a écrit à l'âge de 23 ans. C'est chronologiquement le premier de ces trois concertos pour violon, même si on le désigne comme concerto numéro 2 du fait de sa publication plus tardive. C'est la même histoire avec les concertos de Chopin. Saint-Saëns écrit un an après ce concerto une autre partition pour Pablo de Sarasate à la demande du violoniste espagnol qui n'a que 15 ans et à qui Michel Henault offre une entrée dans son livre Saint-Saëns de A à Z, paru en 2020. Michel Henault cite ainsi le compositeur français « Personne au monde, on peut le dire hardiment, ne joue du violon de cette façon. La pureté du son de Sarasate, la hardiesse de la virtuosité et la simplicité du style, distinction suprême, fait de cet artiste un phénomène unique en son genre. J'écrivis pour lui le rondo capriccioso en style espagnol. » Saint-Saëns parle ainsi de son opus 28, écrit en 1863, introduction et rondo capriccioso, que voici sur France Musique, interprété par Shlomo Mintz, avec l'Orchestre Philharmonique d'Israël, dirigé par Zubin Mehta. Thank you.
Thank you.
Si ma musique pour violon a eu tant de succès, c'est bien à lui que je le dois, car il a été un moment le violoniste le plus en vue du monde entier et il jouait partout mes œuvres, inconnues encore. Camille Saint-Saëns parlait en ces termes de Pablo de Sarasate, dédicataire en 1863 de cette introduction et rondo capriccioso, ici joué par Shlomo Mintz avec l'Orchestre Philharmonique d'Israël, dirigé par Zubin Mehta.
C'est l'été sur France Musique. Le carnaval de Monsieur Saint-Saëns, François-Xavier Chemchak.
En 1858, au moment du premier concerto qu'il écrit pour le violon et dont nous écoutions le final, Saint-Saëns écrit également le premier de ses 5 concertos pour piano. À cette époque, Hector Berlioz salue, je le disais en introduction, un maître et un pianiste foudroyant. Seulement ce premier concerto en ré majeur, opus 17, va laisser les pianistes sur leur faim, comme Alfred Cortot accusant le compositeur de sacrifier au lieu commun pianistique et aux formules techniques usagées. En fait, la première grande partition concertante pour piano de Saint-Saëns, il va l'écrire 10 ans plus tard, en 1868, avec un concerto numéro 2 en sol mineur, opus 22, que le musicien crée lui-même au piano, Salle Pleyel à Paris, sous la direction d'un grand compositeur russe et lui-même grand pianiste, Anton Rubinstein. Rubinstein est emballé, tout comme Franz Liszt, présent dans la salle, tout comme Georges Bizet, qui fera de ce deuxième concerto une transcription pour piano seul, et comme plus tard, comme Jeanne-Marie Darré, grande pianiste française, née en 1905, qui a côtoyé Camille Saint-Saëns dans sa jeunesse, Jeanne-Marie Darré, qui dès l'âge de 21 ans a joué en concert ses 5 concertos. Jeanne-Marie Darré les a ensuite enregistrés en 1931, puis en 1956, comme nous allons l'entendre avec l'Orchestre National de la Radio-Télévision Française, dirigé par Louis Forestier, deuxième concerto dont les premières notes nous rappellent que Camille Saint-Saëns fut également organiste. Jeanne-Marie Darré était l'interprète de ce deuxième concerto pour piano opus 22 de Camille Saint-Saëns, dont nous écoutions le premier mouvement, avec l'Orchestre National de la RTF, la Radio-Télévision Française, dirigé en 1956 par Louis Forestier. Un concerto à la forme atypique, c'est l'une de ces partitions qui avait fait classer Camille Saint-Saëns parmi les jeunes iconoclastes, avant qu'il ne soit rangé plus tard parmi les vieux académiques. Alors, après la virtuosité du violon et celle du piano, Saint-Saëns va exploiter la virtuosité du violoncelle, avec en 1872 un premier concerto en la mineur, opus 33, concerto en trois mouvements enchaînés, que Saint-Saëns écrit pour l'un de ses amis, Auguste Tolbecq, qui fut non seulement violoncelliste, mais aussi compositeur, professeur et même luthier. On doit à ce Auguste Tolbecq, en 1901, un ouvrage intitulé « L'art du luthier ». Auguste Tolbecq va jouer ce concerto pendant des décennies, jusque dans les années 1910. Et c'est « Sol Gabetta », enregistré en 2005, que voici, accompagné par l'orchestre de la radio de Munich, dirigé par Harry Rassilainen, sur France Musique, le final de l'opus 33 de Camille Saint-Saëns. Thank you.
Thank you.
la violoncelliste Sol Gabetta avec l'orchestre de la Radio de Munich dirigé par Harry Rassilainen. C'était le final du premier concerto pour violoncelle et orchestre de Camille Saint-Saëns. Saint-Saëns qui écrira un second concerto pour ce merveilleux instrument 30 années plus tard, en 1902, mais malheureusement pas avec la même réussite. Cette virtuosité instrumentale, Camille Saint-Saëns l'explore évidemment dans l'univers concertant qu'on entend depuis le début de cette émission, mais il l'explore également dans le domaine de la musique de chambre, un répertoire auquel Saint-Saëns a apporté de nombreux chefs-d'œuvre qu'on évoquera dans une autre émission. Mais puisque nous étions à l'écoute du violoncelle, voici une œuvre écrite l'année suivante, 1873. C'est la première sonate pour violoncelle et piano en do mineur, opus 32 de Camille Saint-Saëns. Une partition sombre et tourmentée qui porte les stigmates d'une période assez noire. Pendant la guerre franco-prussienne de 1870-71, Saint-Saëns avait revêtu l'uniforme de la garde nationale. Il avait vu l'effondrement de son pays, comme on le voit sur une caricature de cette époque. Pendant la Commune, il s'était exilé à Londres et au retour, il apprend la mort au combat de son ami peintre Henri Regnault. Il apprend également la mort de sa grand-tante qu'il avait formée au piano. Un moment de tourment en forme de tarentelle qu'on entend dans ce final virtuose joué par Emmanuel Bertrand au violoncelle et Pascal Amoyel au piano. Thank you. la violoncelliste Emmanuelle Bertrand et le pianiste Pascal Amoyel nous faisaient partager en 2006 le final de la première sonate en do mineur, opus 32 de Camille Saint-Saëns. Et tout comme il y a deux concertos pour violoncelle de Saint-Saëns, le compositeur du Cygne dans le Carnaval des animaux écrira une seconde sonate pour violoncelle et piano en 1905.
C'est l'été sur France Musique. Le carnaval de Monsieur Saint-Saëns, François-Xavier Chemchak.
Alors il nous faut revenir dans cette émission sur la virtuosité de Saint-Saëns à son instrument fétiche, le piano, dont il fut, rappelons-le, l'un des plus grands interprètes de son temps. Ses enregistrements acoustiques de 1904, où il accompagne la chanteuse Marianne Aiglon, et puis ses gravures sur rouleaux mécaniques nous donnent une très faible image de son talent. Ce sont plutôt les avis de ses contemporains, les Berlioz, Liszt et autres Rubinstein, admirateurs du pianiste Saint-Saëns, qui nous renseignent sur le sujet. Et puis surtout ses œuvres, à commencer par ses concertos. Également ses œuvres pour piano seul. Il y a des mazurkas, des valses, des fugues, sur lesquelles on reviendra dans une prochaine émission de cette série « Le carnaval de Monsieur Saint-Saëns ». Et puis, il y a trois cahiers d'études absolument passionnants. Deux cahiers pour les deux mains du pianiste et un cahier pour la main gauche. C'est en 1877 que Saint-Saëns écrit son premier cahier de 6 études, opus 52, dédié à plusieurs grands pianistes de l'époque, Anton Rubinstein ou encore Marie Jaël, qui sera une amie proche de Saint-Saëns. Voici François-René Duchâble interprétant les trois premières études de cet opus 52. Il y a tout d'abord un prélude, puis une étude intitulée « Pour l'indépendance des doigts » et enfin « Prélude et fugue ».
Thank you.
Ce n'est pas un pastiche, mais une pensée vivante, écrit Guy Sacre au sujet de ce prélude et fugue qu'on vient d'entendre, joué par François-René Duchâble. C'était les trois premières études, opus 52 de Camille Saint-Saëns. La deuxième étude pour l'indépendance des doigts, inspirant à Guy Sacre ce commentaire « Oubliez la difficulté, laissez s'escrimer le virtuose, ces deux pages vous parlent d'émotion ». Fin de citation. Et oui, le froid et académique Saint-Saëns, qui déclarait faire de la musique comme un pommier produit des pommes, Saint-Saëns fait jaillir de nombreuses émotions. Et ce ne sont pas les nombreux amateurs de son troisième concerto pour violon qui diront le contraire. Là encore, c'est le virtuose espagnol Pablo de Sarasate qui stimule notre héros. Après ses deux premiers concertos, après son introduction et Rondo Capriccioso, Saint-Saëns écrit pour Sarasate son troisième et dernier concerto. Le meilleur, le plus souvent joué, enregistré. Une partition de 1880, dont voici sur France Musique le premier mouvement, Allegro non troppo, avec Augustin Dumay, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, sous la baguette de Ikotaro Yazaki. Thank you. En 1982, un bon siècle après la création de cette partition, Augustin Dumay enregistrait ainsi le troisième concerto pour violon en si mineur, opus 61 de Camille Saint-Saëns, dont nous écoutions le premier mouvement Allegro non troppo avec l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Ikotaro Yazaki. Alors après ces nombreuses collaborations avec Pablo de Sarasate, Saint-Saëns va travailler avec un autre violoniste hispanique, dirons-nous, le cubain Rafael Diaz Albertini, qui va à son tour renseigner le compositeur sur les aspects techniques de son instrument pour, par exemple, la Havanaise en mi majeur, opus 83. Là encore, voilà une œuvre qui n'a jamais quitté le répertoire des violonistes du monde entier. En 1875, Georges Bizet avait envoûté la terre entière avec la Habanera de Carmen. Eh bien, Saint-Saëns retrouve ici la sensualité de ce déhanchement avec le rythme triolet suivi de deux croches. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et puis, une partie alternative, plus nerveuse, plus virtuose. Je vous propose de savourer cette Havanaise de Saint-Saëns avec monsieur Henrik Schering, accompagné par l'orchestre de l'Opéra de Monte-Carlo, dirigé par Eduard van Remortel. Thank you. Sur France Musique, dans le carnaval de Monsieur Saint-Saëns, c'était la Havanaise, opus 83, par Hendrik Schering et l'orchestre de l'Opéra de Monte-Carlo, dirigé par Edouard von Remortel. Alors, le centenaire de la mort de Saint-Saëns est aussi l'occasion de plusieurs parutions de livres, en particulier un magnifique ouvrage illustré de 190 pages, publié par la Bibliothèque nationale de France et l'Opéra de Paris, sous le titre « Saint-Saëns, un esprit libre », avec de nombreux documents iconographiques, des affiches, des partitions, des caricatures, des dessins, des peintures. Et puis, il y a des photos de Saint-Saëns à tous les âges. On trouve notamment une série de photos de ses mains, les mains du virtuose, photographiées par Paul Berger en 1911. Je cite Catherine Massip, qui dans le chapitre « 75 ans de carrière pianistique » évoque, je cite, « les mains du pianiste déjà âgé, mains parfaitement voûtées et puissantes, pas très grande, des doigts de longueur homogène, facilitait les traits de virtuosité en octave et en double note que le compositeur affectionnait de mettre dans ses propres œuvres. » Fin de citation. Eh bien, c'est avec la main gauche de Camille Saint-Saëns que nous allons conclure cette première émission dans une partition écrite quelques mois après cette photo, en février 1912. Ce sont les 6 études pour la main gauche seule, opus 135, dont voici la quatrième, une bourrée en sol mineur, jouée par Aldo Ciccolini. C'est la main gauche d'Aldo Ciccolini dans cette bourrée, quatrième des six études opus 135 de Camille Saint-Saëns qu'on entendait. Merci à Céline Parfenoff, Titouan Labarre, Martine Moni. Et samedi prochain, deuxième épisode de ce carnaval de Monsieur Saint-Saëns avec pour thème l'orientalisme.
À réécouter sur francemusique.fr.